Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce 3 mai 2022. Et oui, mardi, en début de soirée, on l'espère pour tout le monde. Chers auditeurs de Beurre FM, au menu de cette émission, justement, votre quotidienne sportive à Algérie-Cameroun. Et Belmadi qui fait sa mise au point. Voilà, chez nos confrères d'RMC. Hier soir, Olympico, l'arbitrage encore pointé du doigt. Et ça énerve aussi Jorge Sampaoli, la NBA, Joel Embiid, qui pense à cette équipe de France. Et oui, la star du basketball nord-américain, des parquets de la NBA. Justement, on reviendra avec toute l'équipe de Tamsport. Le 01-53-48-3000, c'est le numéro du standard. On vous fait remporter ce soir un magnifique livre. Allez, pour les amoureux du football français, mais aussi du Paris Saint-Germain. Le dictionnaire, excusez-moi, officiel du Paris Saint-Germain aux éditions Solar. Voilà, on vous le fera remporter.
Il y a rien de plus simple.
Remontada, je sais pas. Voilà, vous l'aurez connu, c'est lui, Marie. Mais on verra bien. Le 01-53-48-3000. Vous nous appelez. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Un petit coucou et vous repartez directement avec ce fabuleux bouquin. Le débat du jour, Alexander Seferin, excusez-moi, le président de l'UEFA qui considère que la Ligue 1 n'est pas assez forte et handicape donc le Paris Saint-Germain à tort ou à raison. On vous donne la parole, voilà, vous nous appelez, aussi on recevra pour la première fois dans cette émission, allez, Benjamin Giraudon, auteur de ce fameux livre « Désarmer la violence ». Allez, c'est parti, on va écouter le JT Sport qui nous a été finement préparé par Diazon.
Time Sport.
Spécial trophée UNFP où on connaît enfin les 5 joueurs nominés pour la saison 2021-2022. Il s'agit de Dimitri Payet, Lucas Paqueta, Wissam Ben Yedder, Martin Terrier et Kylian Mbappé. Dans la catégorie joueurs français évoluant à l'étranger, bien sûr, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Théo Hernandez et Ousmane Dembélé. Dans la catégorie gardien de Ligue 1, Alban Lafont, Didier Donnarumma, Walter Benitez, Matt Sells et Paulo Lopez. Chez les espoirs, Arnaud Kalimuendo, William Saliba, Castelo Luqueba, Kefren Thuram et Nuno Mendes. Et enfin chez les entraîneurs, Christophe Galtier, Bruno Genesio, Julien Stéphan, Jorge Sampaoli et Antoine Comboiré. Vous l'aurez compris, pas de Mauricio Pochettino, pourtant champion de France avec le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport.
Allez, ce soir, pour m'accompagner avec moi jusqu'à 21h, et oui, on est ensemble, on aura Abdel. Comment ça va, Abdel ?
Ça va, Bilal, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là.
Et aussi Louis-Marie. Voilà, Louis-Marie est avec nous ce soir. Comment ça va, Louis-Marie ?
Ça va très bien, très chaud. On va bien pouvoir insister avec Abdel ce soir. On va prendre notre temps, on n'est que deux, c'est parfait.
Bien sûr, on va voir justement. Allez, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission. Allez, concernant les Fenech et son sélectionneur, Djamel Belmadi.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Eh oui, il était l'invité de l'émission Retête son flamme chez nos confrères de la radio RMC. Djamel Belmadi a abordé justement la question de son avenir en équipe nationale, mais aussi est revenu sur voilà cet épisode avec l'arbitrage, ce match en route pour le Qatar 2022. Ça a jasé quand même, pas mal sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que, allez, je cite, même si je suis sous contrat jusqu'en 2022, il y avait une possibilité que je m'en aille après un tel échec. J'ai dû prendre mon temps pour réfléchir. Oui, pas mal de choses ont été dites, notamment sur les réseaux sociaux, ça a son habitude. Mais c'est vrai aussi, pas mal de personnes ont réagi. C'est ce mec-là qui me juge. Voilà, c'était la réponse très sèche, de Djamel Belmadi à un certain monsieur Chaperon. Là aussi. Abdel, ouais, alors, on revient encore sur cet épisode. En fait, il faut en parler parce qu'on en parle dans la planète football.
De toute façon, comme dans tout, on a un œil différent sur la situation par rapport aussi à si on est pris dedans ou si on a un peu plus de recul. Moi, je vais déjà dire ce que j'ai redit, mais peut-être que la dernière fois, on n'avait pas eu alors assez de temps. Je pense que il y a eu des mots de la part de Djamel Belmadi, peut-être qui ont été un peu forts. Certes, c'est des choses qu'on peut lui reprocher. Je pense que c'est quelqu'un qui est adulte, qui si on lui fait remarquer qu'il a fait une erreur, peut s'excuser, peut se rendre compte que c'était peut-être pas les mots adéquats. Après, je pense que il y a toujours ce goût amer, parce que l'interview qu'il avait fait pour la fédération arrive un mois et demi après, donc je pense qu'il a encore ses, il a encore ses, il a enfin il a réfléchi euh, longuement à ce qu'il pouvait dire et qu'il avait encore ça au fond de son sac. Maintenant, voilà, comme je le disais, après ça peut être un avis qui est partagé ou non. C'est très facile de taper sur lui. Il estime qu'il a été biaisé avec son équipe. On le redit encore une fois sur l'arbitrage, c'est un combat qu'il mène depuis le début de son mandat avec la sélection. Et ce qui me fait rire, c'est que tout le monde n'est pas jugé à la même hauteur.
Ouais.
On a vu des médias faire des émissions spéciales limite en fil rouge après des déclarations comme si il s'était passé quelque chose de très grave dans le monde, alors que voilà, c'est des déclarations qui peuvent être traitées normalement dans l'émission quotidienne. Donc ça m'a fait un petit peu sourire. Et en plus de ça, voilà, on va être clair après, ouais, par rapport à ce qui s'est dit. J'estime que malheureusement aujourd'hui, quand on donne une tribune à quelqu'un et que c'est tellement important de briller qu'on oublie principes et valeurs, et que pour taper sur les doigts c'est très facile, même quand on connaît la personne et qu'on l'a côtoyé pendant très longtemps, parce que on a peur de plus revenir à l'antenne ou autre. Maintenant, voilà, moi, je suis d'avis que c'est des choses qui ont été dites peut-être maladroitement. Hier, il s'est très bien exprimé. Je pense que il y avait de vrais connaisseurs et même des anciens joueurs qui étaient avec lui, qui ont peut-être abordé la chose différemment, ce qui fait que il était peut-être plus libre que de recevoir des choses aussi qui ont été diffamatoires à son propos, qui sont extrêmement graves. Et après, pour conclure et laisser Louis-Marie, moi, je suis pas j'oblige personne à avoir le même avis que moi. Je peux comprendre si des avis divergent, mais attention aux mots qu'on emploie, parce que si on va vers quelqu'un, on l'accuse de quelque chose de très grave pour ses propos, faut pas y aller de la même manière quand on essaye de faire ressortir soi-disant une personnalité chez quelqu'un.
Ouais. Alors.
Alors moi je vais être beaucoup plus tranché que ça.
Alors pourquoi ?
Bah, il y a un moment donné, alors Dieu sait que j'aime beaucoup Belmadi, ouais, et que la première chose, c'est qu'il faut pas oublier ce qu'il a fait à la tête de l'équipe d'Algérie,
ouais,
et que ça serait pour moi une erreur de la part de l'Algérie de s'en séparer. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'il faut qu'il poursuive sa mission.
Ouais.
Ce n'est pas cet échec qui doit remettre en question sa mission, parce qu'il a été très bon pendant son mandat, et que, ouais, globalement il a reconstruit le football algérien. Et que ça serait un pas en arrière de le virer. Ça, c'est une première chose. Donc, bien on ne met pas en question ce qu'il a fait et ses performances de coach. En revanche, il y a un moment donné, j'ai envie de dire à Jamel Belmadi de tourner la page.
Oui.
Ça fait trois mois, enfin deux mois, je ne sais plus.
C'est passé,
terminé.
Il faut avancer.
En plus, il faut avancer. Et il y a un moment, on va revenir sur ce qui s'est passé.
Ouais.
Concrètement, il n'y a pas de scandale.
Ouais.
Tu vois,
alors,
tu vois, franchement, Bilal, moi,
ouais,
je sais que d'autres peuvent avoir. Moi, j'ai vécu le match avec toi, tu t'en souviens ?
Ouais, bien sûr, c'est bon, on a regardé le match ensemble.
On l'a regardé ensemble. Bon, effectivement, on peut toujours, quand on a l'émotion, quand on a le cœur, se dire c'est pas très juste, c'est pas ceci. Moi, j'ai pas vu un scandale, j'ai,
ouais,
pas vu un vol. Les coups de sifflet sont pas allés dans le bon sens, mais il n'y a pas vol caractérisé. J'ai vu des matchs,
ouais,
beaucoup plus scandaleux que ça. Je me souviens d'un City-Barcelone qui était honteux. Je me souviens d'un Lyon PSV Eindhoven qui était également scandaleux.
Oui.
On monte un peu plus loin. Mais voilà, ce match Cameroun-Algérie, c'est un match complètement fou. Incroyable match, pas scandaleux sur l'arbitrage. Donc moi, je trouve qu'il en a fait beaucoup trop, Jamel Belmadi. Sur l'arbitrage, ça, c'est le premier point.
Oui.
Après ses propos, je ne veux pas revenir dessus.
Bien sûr.
Je pense qu'il faudrait qu'il tourne la page, parce que quelque part, il est en train lui-même de creuser sa tombe en se mettant sur la lumière pour de mauvaises raisons. Plutôt que de parler de son bilan, plutôt de parler de la reconstruction, plutôt de parler de l'avenir du football algérien qui,
ouais,
est potentiellement très intéressant.
Mais il en a parlé, Louis-Marie. Il a
non,
parlé.
Non, mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est
qu'il a fait 3 minutes sur l'arbitrage.
Mais
ça,
il faut qu'il arrête. Il faut qu'il en fasse
non,
zéro.
Ouais, mais non, parce que pour moi, quand t'as. Regarde,
alors,
tu fais. Moi, je comprends ton avis, comme j'ai dit, je respecte. Le truc, c'est que tu fais une interview de 50 minutes où tu parles de la formation, tu parles des infrastructures. Il a parlé de son bilan, du fait que potentiellement il avait aussi songé à partir. Il dit trois mots sur l'arbitrage. Donc quand il s'adresse quand même, c'est sur la chaîne de la fédération algérienne, donc il s'adresse aussi au peuple entre guillemets, même si on sait que ça va être relayé. Je pense que voilà, si c'est encore au fond de ton sac un mois après et que t'es capable de parler à tête reposée, quand bien même ça déplaise à certains, je trouve que
c'est pas que ça me déplaît, c'est que ça le dessert. Non mais c'est pas que ça me déplaît.
C'est pas à toi que ça déplaît, hein,
non,
je parle globalement.
Mais pas globalement. Ce que je veux dire, c'est que concrètement, ça n'est pas que ça, que ça te plaise ou que ça déplaise, à limite on s'en fout, je suis d'accord avec toi. Le vrai problème, c'est que ça le dessert. Moi je pense que la réaction qu'il devrait avoir face à ce genre de questions, parce que là où je suis d'accord avec toi, et c'est pas lui qui décide des questions, hein, donc on lui pose des questions, il répond.
Bien sûr.
Mais là, là où il devrait être posé, dire l'arbitrage, on en a suffisamment parlé, vous connaissez un peu.
Justement.
Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose.
D'accord ou pas, avec le mari, d'accord ou pas.
Il y a un vrai problème.
Vous nous appelez le 01 53 48 3000. On a des réactions aussi sur les réseaux sociaux. Abdel, justement, dénoncer l'arbitrage, le mari africain, c'est creuser sa tombe. Point d'interrogation. Ah bon, ok, voilà.
Non, mais vas-y. Moi, par rapport.
En fait, mais attends, mais moi je vais juste répondre à Sarah qui m'interpelle.
Alors,
Sarah, c'est pas la question. Il ne dénonce pas l'arbitrage africain. Il dénoncerait un scandale. Encore une fois, je serais d'accord avec lui. Moi, je suis pas algérien. Je suis pas partie prenante. Je suis pas camerounais. Donc part, je suis très neutre. Il n'y a pas eu de scandale sur ce match, à mon sens, et de ce que j'en ai vécu. Alors, je pense que les Algériens pensent peut-être différemment. Très bien. Mais
on sait pas, on va voir.
À côté de ça, il faut arrêter de me dire qu'il dénonce. C'est pas comme si on dénonçait un complot.
Ouais.
L'arbitre, au pire, il s'est trompé. Moi, je ne crois pas et je ne veux pas croire qu'il y a de complot derrière.
Ah,
il faut arrêter cette conjuration.
Complot, pour lui, c'est trop fort.
Je suis pas d'accord.
Alors,
parce
vas-y, Abdel.
On sait très bien que le football africain est lésé par pas mal de scandales par rapport à l'arbitrage. On l'avait vu quand bien même aussi à la CAN un mois avant ses éliminatoires pour la Coupe du Monde. Après, oui, comme par hasard, c'est marrant, mais quand je l'ai dit tout à l'heure, il a toujours parlé de cet arbitrage qui était assez moyen et que le football africain devait progresser dessus. C'était un de ses axes dès qu'il est arrivé. Malheureusement, quand il parle pour tout le monde, c'est cool, mais dès qu'il prêche pour sa paroisse, c'est dérangeant. T'as le droit de te sentir lésé. Peut-être que oui, il y a pas de grosse faute d'arbitrage. Moi, la seule que je peux voir, c'est le fait de pas avoir consulté la VAR sur le premier but. Après, oui, il peut avoir des choses qui sont plus ou moins 50-50, ça, sans aucun souci. Maintenant, voilà, il a tourné la page, oui. Tu l'as toi-même dit, il faut qu'il parle de son bilan, il faut qu'il parle de certaines choses. Il l'a fait pendant 47 minutes. Il a parlé 3 minutes de l'arbitrage. On a retenu que ce dont il avait parlé pour l'arbitrage.
Mais je suis d'accord avec toi là-dessus, mais il y a un moment donné, il le sait que ça se passe comme ça, le football. Et c'est là où il doit être. Moi, ce que je lui reproche, c'est de pas être un meilleur communicant là-dessus. C'est que justement, s'il veut qu'on parle d'autre chose, il faut qu'il arrête d'en parler. Et je suis d'accord avec toi. La reste de son interview, elle est très intéressante. Il parle de beaucoup de bonnes choses. Le problème, c'est que tout le monde ne retient que l'arbitrage et la polémique.
Bien sûr.
Il faut qu'il arrête d'en parler. S'il veut faire passer un vrai message.
Tout le monde retient que l'arbitrage, mais
en tout cas, ça me fait
rigoler parce que c'est pas un des seuls qui essaye de faire changer les choses parce que je le mettrai pas
dans l'arbitrage en Afrique, hein.
Oui, mais
là, pas que, voilà.
Oui, non, mais c'est quelqu'un qui essaye de faire voir qu'il y a des problèmes. Après, il a parlé d'Alucissé, il a parlé d'autres personnes qui sont aussi compétentes. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que pourquoi on n'a pas envie que si, toi, tu dis qu'il n'y a pas de complot, ça, c'est un fait. On n'a pas les tenants et les aboutissants. Lui-même a encore dit qu'il y avait des choses à la FIFA, donc on attendra pour parler un peu plus longuement de ce sujet. Mais quand on sait que moi j'ai pas peur, j'ai vu des matchs africains, on a vu des arbitres condamnés, et finalement il y en a qui ont pas envie de faire changer les choses parce que on le sait quand ça va dans leur sens, et ben finalement t'as pas envie que certains problèmes soient relevés. Après voilà, c'est une interview qui a été faite. C'était pour lui tomber dessus le fait de revenir sur l'arbitrage parce qu'il y a quand même, je le répète, et Louis-Marie aussi le dit, qu'il y a des très bonnes choses sur son passage hier. Comme il l'a dit, il a été très juste, il a parlé à tête reposée, peut-être avec des gens qui savent mieux communiquer, savent peut-être mieux tourner leur angle au niveau des questions. Mais après voilà, le target de raciste.
On est d'accord que c'est scandaleux.
Quand on entend que certains, voilà, qu'il a côtoyé personnellement,
on a pas mal de réactions.
En fait, quand on donne une tribune à quelqu'un,
On est obligé d'y répondre.
L'amitié, elle passe par-dessus tout, parce que t'as peur de plus revenir à l'antenne ou de plus exister. Donc, tu vas pas laisser ton pays ou laisser le continent se faire attaquer par lui.
Devrions-nous rester éternellement silencieux peut-être sur la corruption présente au sein de l'arbitrage africain, Lumaré? C'est une question.
Non, mais
parler de l'arbitrage, attends, alors parler de l'arbitrage. Je m'explique, on a pas mal de réactions, on sait faire avancer peut-être la discipline. Cela ne concerne non, ça, pas l'Algérie seulement.
Je suis d'accord, mais le problème c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il y a un moment donné, le problème c'est que c'est se tromper de combat.
Ouais.
Parler du scandale qui peut y avoir, et là je vous laisse libre de vos propos, il y a forcément, il y a sans doute eu, et comme dans tous les arbitrages du monde, des corruptions, des problèmes, peut-être plus en Afrique qu'ailleurs, ça je me sens pas à l'aise pour en parler. En revanche, le problème, c'est que quand tu catalyses ces propos sur un match comme ça, ça perd de sa force parce que, globalement, ton discours, si tu parles de corruption, moi, si je reçois juste ça, parce qu'effectivement, certains me disaient, bah, regarde d'autres matchs. Mais le problème, c'est que le monde du football n'a regardé que ce match-là. Et Belmadi sort de ses gonds en parlant de corruption, en parlant de tous les en faisant une généralité sur la corruption de l'arbitrage, en parlant de ce match-là. Or, je suis désolé, un spectateur neutre ne peut pas soupçonner de complot sur ce match-là. Peut-être sur d'autres. Mais oui. Pas sur celui-là. Donc du coup, le fait est d'insister là-dessus, et c'est là où je trouve que c'est maladroit, c'est que ça dessert son propos, parce qu'on va dire, plutôt qu'il au lieu de dire qu'il soulève un vrai problème qui existe, ça je suis d'accord avec vous, le problème c'est que, plutôt que de parler de ça, on va dire, voilà, il est rageux, on va dire plein de choses, et ça va affaiblir son propos. Oui. Et son propos de fond, il a peut-être sans doute raison, ça je ne me sens pas légitime pour en parler. Ce que je dis juste, c'est que s'il était intelligent aujourd'hui, à mon sens, il arrêterait d'en parler pour l'instant. Il en a suffisamment parlé.
Ouais.
Et il arrêterait de tomber dans les pièges des journalistes qui veulent lui en faire parler. Moi, c'est mon point de vue. Et qu'il laisse peut-être sa fédération, d'autres gens, gérer ça.
Juste, tu parles de la fédération, mais justement, il est quand même entouré assez d'incompétents qui déjà veulent certains le faire tomber lui, donc ça va être compliqué d'avoir du soutien après.
Ouais, quand, ça fait réagir.
Tu vois d'un point de vue neutre, ok, sur ce match-là, si tu joues ce match-là, c'est vrai. Mais comme on fait le lien avec le fait qu'il a toujours dénoncé depuis son arrivée, et quand t'as regardé d'autres matchs, tu peux pas avoir, quand tu côtoies un peu et que tu vois ce genre de match, le sentiment neutre entre guillemets tu peux pas l'avoir parce que tu te dis qu'en fait il a vraiment soulevé des réalités. Et après, encore problème. Une fois, à partir de là, je suis d'accord, toi tu dis qu'il devrait pas en parler, etc. Après, tu sais très bien que c'est une question qui allait revenir. Et encore une fois, c'est une interview qu'il a fait pour la Fédération algérienne de football. Et on sait l'impact des réseaux sociaux, on sait les déclarations entre guillemets avec deux mots qui sont prises pour faire des titres putaclic sans être méchant.
Mais donc t'es d'accord?
Ouais, je mesure ton vocabulaire quand même.
Juste, quand tu fais ça,
il est 20h et des poussières.
Les gens qui tu sais très bien que ça va se passer de cette manière, donc.
Mais justement, donc n'en parle pas.
En fait, non, mais il va en parler, mais parce que c'est d'abord, on sait que l'Algérie, etc., c'est en gros une grosse union, etc., avec entre le pays, les supporters, le club, enfin le sélectionneur. Donc le fait d'en parler, c'est aussi dire que pour lui, ces supporters qui se sentent biaisés, il les a pas oubliés en parlant de ça, et qu'il y a toujours des choses en cours. Maintenant, d'une interview, tu ressors ce que tu veux, mais à partir de là, peut-être qu'il aurait pas dû en parler si on veut, mais s'il en parle, c'est que justement, il y a encore des choses à soulever. Et dernière phrase, Bilal,
allez, rapidement, avant le débat du jour et la pause.
Excuse-moi, ça m'a déconcentré. Vas-y.
Allez, ça l'a déconcentré, ça fait rien. Il va retrouver ce qu'il voulait dire. Bon, restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, il est 20h22, excusez-moi cher auditeur de Beurre FM, à la maison, dans les transports ou même en voiture, vous écoutez la radio de la diversité avec Louis-Marie, avec moi pour m'accompagner jusqu'à 21h et aussi Abdel, notre consultant. Allez, on place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One. The special...
Allez, un petit teaser concernant le dictionnaire du Paris Saint-Germain qu'on vous fait remporter aux éditions Solar. Rien de plus simple, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Mais là, nous sommes en ligne avec Benjamin Giraudon. Et oui, l'auteur de Désarmer la violence aux éditions Solar. Bonsoir Benjamin, comment ça va?
Bah écoutez, ça va très très bien, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir.
Ah ben nous aussi Benjamin, vraiment, on va essayer de aller démocratiser tout ce manuel de défense à l'usage des anti-héros. Demain, on le sait bien, allez, nos collègues de Marvel, si on peut se permettre, hein, sortira le Doctor Strange, c'est ça, le volet 2.
Exactement.
Ouais, lui Marie, il va courir en salle avec Abdel, le voir. Justement,
ben non.
Ah ben ouais, mais on verra bien. La violence peut prendre mille formes, c'est vrai. La self-défense aussi, la technique miracle n'existe pas peut-être, car la violence est humaine, elle s'adapte, c'est bien ça. En tout cas, comment vous êtes arrivé cette envie, voilà, de créer ce manuel, quoi, si je peux me permettre, hein, pour tout le monde, quoi.
Eh ben, en fait, c'est parti d'un postulat simple. Moi, je venais d'une formation d'arts martiaux, sport de combat, et du coup, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il y avait un vrai décalage entre les personnes que j'avais en club et puis les personnes avec qui je discutais hors justement de ces clubs. Et puis on se rendait compte. Moi, j'ai appris par la base technique. Et puis, je me suis rendu compte à un moment que c'était pas forcément la réponse que les gens voulaient. Donc, à un moment, on parle de violence et non plus de technique. On parle d'émotion, on parle de peur. En fait, on parle d'humain. Et en fait, ce livre, il est juste parti de là. C'était remettre un peu l'humain au cœur des choses. Enlever le manuel technique. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a rien du tout. Mais juste parler du sujet de fond, c'est-à-dire l'homme et la violence. Et comment y faire face.
Oui, en quelque sorte. Et vas-y, Abdel.
Bonsoir,
Abdel, consultant avec Benjamin.
Benjamin, est-ce que, certes, vous avez dû voir que la violence augmentait, mais est-ce que vous en avez connu peut-être dans des stades, que ce soit dans des matchs professionnels ou amateurs, qui vous a poussé à accélérer l'écriture de ce livre?
Ouais, complètement. Bah justement, à travers les clubs, moi je donne des cours de self-défense à côté de ça, et depuis 10 ans. Et du coup, c'est à travers toutes les histoires des personnes que j'ai connues, à travers mon vécu aussi, à travers aussi les recherches que j'ai faites, les experts que j'ai rencontrés, toutes ces personnes-là finalement ont pris part à la création de ce livre.
Oui. Allô? Ah oui, excusez-moi. On est toujours ensemble. On est toujours avec Benjamin, notre invité. Oui, Abdel.
Comment expliquer ça, peut-être, enfin cette hausse de violence, peut-être que voilà, il y en a qui aiment bien se bagarrer ou autre.
L'après-Covid.
Comment expliquer ça, et comment le faire pour communiquer encore plus dessus, pour peut-être que ça cesse, parce qu'il y a une hausse, et c'est justement pour ça que vous avez fait votre livre.
Ouais. Alors, je pense que la réponse, elle est plutôt simple, c'est que quand on parle de violence, on parle toujours, en fait, d'un moment donné. Le moment où on s'échange des coups, où il y a ce côté un peu, l'image qu'on a à travers les films, qui est ce côté un peu justice et compagnie, mais en fait, c'est toujours des gens qui n'ont aucune conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est juste expliquer que la violence, elle se prend en amont, il y a un pendant, et il y a surtout un gros après.
C'est vrai.
L'après, il peut être juridique, émotionnel, traumatique.
Ouais.
L'avant, il y a aussi les traumas qu'on a vécu aussi, les histoires qu'on a vécues.
Bien sûr, personnel.
Et puis le pendant, il y a aussi la peur. Il y a aussi le côté où on aimerait réagir différemment. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, on vit une scène. Et puis après, finalement, on y repense pendant des temps en disant, tiens, si j'avais dit ci, si j'avais dit ça. Rien qu'une engueulade avec son conjoint ou sa conjointe, c'est la même chose. Tu vois, quand à un moment tu dis j'aurais pu faire mieux.
Bon, alors c'est le manuel qu'il faut se procurer là. Ouais, éviter les embrouilles, avec son conjoint, sa conjointe, ça c'est super, ça. Le mari, il est d'accord, hein.
Ça vous sauve la vie, hein. Ça sauve des vies, les gars.
du coup, Benjamin
Giraudon.
Moi, je voulais que tu m'expliques un petit peu quel était ton objectif pour tes lecteurs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent en lisant ce livre? Qu'est-ce que tu veux qu'ils en retirent? Concrètement.
Ce qu'ils en retirent, c'est une vision qui soit plus réaliste de la violence. En fait, enlever le côté glamour que tu peux avoir, soit à travers les films, soit le côté anxiogène que tu peux avoir à travers les médias. Et ce que je veux, c'est qu'ils aient une vision réaliste. En fait, c'est enrichir la connaissance pour te dire, bah tiens, si ce truc arrive, je repère les signes en amont, je vois le truc arriver, voilà comment je peux le gérer, j'ai des possibilités. Et ça évite aussi, tu vois, le côté où tu frises, le stress, l'angoisse.
Et donc, tu donnes des méthodes concrètes pour justement ça. Gérer ça,
à travers le livre.
Quel type de méthode, sans trop spoiler ton bouquin?
Alors non, il n'y a pas de spoil. De toute façon, le but vraiment, c'est de le donner, d'ouvrir à tout le monde. Ce qui est un peu aussi le but de ce bouquin, c'était de s'adresser vraiment à tout le monde. Que ça soit des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, etc. C'était de s'adresser au plus grand nombre. Les méthodes, elles sont simples. C'est d'expliquer déjà les deux types d'agresseurs auxquels tu peux avoir affaire. Tu vois, il y a deux profils. Deux profils que tu peux gérer différemment. Ce sont les agresseurs ou les prédateurs. Je te la fais courte. En bref, tu vas avoir le mec qui, en, par exemple, tu as un feu, le mec t'a un peu grillé la priorité, il s'arrête, ouais. Il vient te courir la vie et compagnie. Ce mec-là, c'est un agresseur.
Ouais.
Ce mec, il a un grief contre toi. Si tu l'écoutes, si tu t'excuses, tu gères le truc, tu peux le désamorcer.
Ouais.
Tu vois, tu peux trouver une solution pacifique. Par contre, si t'es face à un prédateur,
voilà.
Un mec, par exemple, qui a réparé ta voiture, et ce mec-là te suit pour te la voler, ce mec-là, tu vas pas pouvoir le désamorcer, parce que ce mec-là, t'as choisi.
Ouais, carrément.
Donc, du coup, il va falloir gérer différemment, voire peut-être physiquement.
Et... Ah, c'est chaud quand même ce que vous êtes en train de nous dire, hein. C'est vrai, sur l'antenne, hein. Agresseur, prédateur, c'est bien ça.
C'est ça.
Ouais.
On arrive déjà à distinguer les deux parce que ce qui désamorce l'un, généralement, engage l'autre.
Ouais.
Et donc, si tu t'excuses auprès d'un prédateur, ça n'avancera à rien.
C'est vrai.
Par contre, si tu chauffes un agresseur, ça, pareil, ça n'avancera à rien.
Et, allez, Abdel.
Benjamin, pour parler encore de deux phénomènes, vous disiez justement que c'est à travers plusieurs témoignages que vous avez décidé d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui est le plus choquant finalement entre les, enfin choquant c'est pas le mot, mais entre les agressions dites physiques et les agressions verbales, parce qu'on sait que de plus en plus les mots peuvent toucher, notamment moralement, plus que les coups, si je peux dire ça, voilà, en minimisant le propos. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué entre les deux?
Si je devais répondre à ça, je dirais que tu te rends compte facilement que faire mal à quelqu'un, c'est très simple. Que ça soit en frappant dessus, que ça soit avec des mots, que ça soit aussi avec une attitude, tu vois, blesser les gens, c'est très très simple.
Ouais.
Et tu vois aussi que la nature humaine est d'une créativité sans limite, tu vois, pour blesser les autres. Que ça soit physiquement, que ça soit moralement, émotionnellement, tu vois, il y a tellement de leviers que du coup... Il y a beaucoup de douleur là-dedans.
Bien sûr.
Et la douleur, ça a des conséquences.
Ah, ça, c'est incroyable. On peut se le procurer dans tous les points de vente habituels. Je rappelle, Désarmer la violence, le manuel de défense à l'usage des anti-héros. C'est vrai, vous ne trompez pas. Vous ne retrouverez pas des images de Batman ou encore du Capitaine Marvel. C'est bien voilà.
Pas du tout.
De Benjamin Girondin.
Oui. Les anti-héros, c'est juste des personnes normales, mais qui sont à un moment confrontées à une situation exceptionnelle et qui vont devoir agir de façon exceptionnelle.
On l'aura compris, alors Benjamin est plutôt DC Comics que Marvel Comics, c'est ça, hein? Eh oui.
C'est pas faux.
Un grand merci à Benjamin Girondin d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Désarmer la violence. Vraiment merci aux éditions Solar. Allez-y, vous le procurez même sur les points de vente habituels et sur Internet. Nous, on enchaîne avec le débat du jour.
Timesport. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
Toujours là, frais, sympa, Louis Marais et Abdel pour m'accompagner jusqu'à 21h avec son réalisateur Yanis qui fait son grand retour, tout comme Karim Benzema, et oui, dont son entre, qui est le studio de Beurre FM. Alexander Seferin, qui considère, Louis Marais, mais on regarde pas comme ça, que la Ligue 1 n'est pas forte et handicape tout de même le Paris Saint-Germain à tort ou à raison, justement. On vous donne la parole, on vous le rappelle, le 01 53 48 3000, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Bah, il a raison sur un premier point. La Ligue 1 est pas le championnat le plus fort d'Europe. Ok, très bien, ça là-dessus, on peut tous en convenir.
Ouais.
Il y a le PSG et les autres, il n'y a pas assez de concurrence, très bien. Mais ce serpent de mer qui nous dirait que c'est parce qu'il n'y a pas cette concurrence que le PSG est faible, c'est juste de la connerie. Parce que la réalité, c'est que ça existe partout dans tous les championnats. La Juve n'a jamais été aussi forte en Coupe d'Europe que quand elle mettait des pilules et qu'elle finissait avec 15 points d'avance en championnat. Depuis qu'il y a de la concurrence en Italie, que la Juve est un peu moins forte, eh ben elle galère en Coupe d'Europe. Et peut-être à d'autres moments, la concurrence fait du bien, par exemple, comme en Angleterre. Il n'y a pas de règle.
Ouais.
Moi, je ne crois pas à cette idée que la concurrence acharnée en championnat soit forcément une force ou une faiblesse. Ça va dépendre des équipes et des clubs.
Ouais.
Ce n'est pas le championnat qui fait que le PSG est faible. Regardez le championnat allemand. Ça va faire combien de fois? 10 d'affilée pour le Bayern, ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans.
Quand même.
Donc, a priori, ils sont performants en Coupe d'Europe. Donc,
35 fois pour le Real.
C'est le lien qu'il fait, je trouve que c'est un raccourci qui est vulgaire et vraiment inintéressant et pas digne d'un président de l'UEFA.
Justement, ce côté respectueux peut-être.
Mais c'est pas histoire de respect, non. C'est juste.
Ouais, mais quand même, la France championne de.
Disent que la France n'est pas un championnat assez fort.
Ouais,
on est d'accord. Mais il y a un moment donné, faire ce raccourci-là, ça n'est pas digne de quelqu'un qui est censé connaître le football.
Abdel. Par rapport à ce qui est dit, je trouve que cette déclaration, elle est un peu. Elle date un peu, quoi. Il a du retard parce que la Ligue 1 s'est jamais aussi bien tenue depuis 2-3 ans que le niveau a augmenté. On en a parlé plusieurs fois ici. Moi, j'estime que le Covid qui a fait que les clubs ont perdu beaucoup d'argent quand ils pouvaient recruter avant dans notre Ligue des talents, comme on l'appelle, et ben c'était beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, les joueurs pour se faire voir aussi devaient être de plus en plus performants et montrer toutes leurs qualités, ce qui fait que aussi ils sont restés dans le dans le championnat. Ils partaient pas au bout d'un an ou de 6 mois. La Ligue 1 est si mauvaise, je pense que faudrait regarder dans les 4 autres grands championnats tous les joueurs qui viennent du championnat de France ou qui ont été formés en France justement. Peut-être que ça lui ferait rabattre son caquet. Et après voilà, ça me fait un petit peu rigoler parce que certes le PSG a fait des progrès notamment en Europe, mais parce que c'est toujours la même chose, c'est une prise de conscience. Et comment tu respectes tes adversaires et comment tu joues tout au long de l'année, tu peux pas.
En ce qui me concerne, je trouve pas que le PSG fait progrès en Coupe d'Europe.
Bah, ça, c'est mon avis. Tu fais des progrès parce que t'arrives en finale et que t'arrives en demi-finale.
On va arrêter de parler de cette finale parce que c'est un final. Non, mais c'est un final.
La vérité. Non, mais
c'est des. Non, mais Abdel,
si je peux terminer,
laisse terminer. On va revenir à toi.
C'est
pas de problème.
C'est une exception, mais dans les adversaires qu'ils ont affrontés. Potentiellement les matchs aller-retour que ce soit contre Leipzig ou
contre moi, je pense qu'ils passent jamais contre l'Atalanta.
Je pense qu'il y avait quand même une classe d'écart, mais quand je dis progrès, on est obligé de le constater même.
Ah bah moi je le constate pas, peu importe l'attitude dont ça a été fait.
Dans ces cas-là, c'est comme si on revient toujours au débat éternel que l'OM a gagné Ligue des Champions alors qu'il y avait 8 équipes, c'est toujours pareil. Donc
c'est pas la même.
Oui, non, mais quand t'as les
mêmes compétitions.
Non, mais c'est pas
dans ce sens-là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement cette année, cette saison de football en Coupe d'Europe a montré que le PSG dans l'attitude et dans la façon d'appréhender cette compétition n'avait pas progressé parce que ils ont été éliminés, ils ont souffert des mêmes maux qu'ils ont souffert il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans. Moi, je pense que cette finale, moi, je la mets de côté. Alors, Abdel, non, chacun son truc.
C'est pas. En fait, moi, je t'ai raison. T'es obligé parce que.
Mais
en
non,
fait,
mais moi, je suis pas obligé.
Elle est là.
Ah bah, tu peux pas dire que t'es obligé, je suis pas d'accord avec toi.
Tu
supportes le football français, lui, Marie, quand même.
Mais c'est pas supporter
le football français.
C'est pas supporter le football français.
En fait, moi, je dis juste que. Potentiellement, quand tu vois un bilan, normalement, logiquement, cette année, oui, encore, il y a des mêmes erreurs qui ont été là, qui se sont révélées comme par le passé. Mais quand je dis, voilà, qu'il y a une progression, c'est. Une finale, une demi-finale, et que ils ont pris la chose du bon bout, chose qu'ils ne font pas.
Bah, tu trouves que cette année ils ont pris du bon bout?
J'ai pas fini justement mon propos, comme tu m'as pas laissé finir, mais.
Un peu plus.
Laisse-le terminer.
Non, parce qu'on n'est pas beaucoup, donc je prends mon temps.
Bien sûr, prends ton temps. Là, il a le temps.
La chose, c'est que tu peux pas commencer une saison, sur un au petit trot du mois d'août au mois de janvier et après en février augmenter, c'est des choses qui se font sur la durée. Si t'écrases ton adversaire et que tu mets beaucoup de rythme, tu t'arriveras fort en Ligue des Champions. Après, peu importe ce qui s'y passe, mais voilà, pour revenir à la déclaration de Monsieur Seferin, je la trouve un peu en retard par rapport à la Ligue 1 qui a fait énormément de progrès, des investisseurs aussi qui sont venus et qui ont mis des moyens sur des joueurs pour eux justement gratter quelque chose, enfin gratter l'Europe, gratter des titres, que ce soit même au niveau national, parce que le PSG n'est pas intouchable. On l'a vu qu'ils ont perdu 3 titres depuis l'ère Qatari. Donc voilà, je pense que là voilà,
si on regarde les résultats de nos clubs français cette année en Coupe d'Europe, et ben s'il y avait pas cette toute nouvelle compétition, on n'aurait pas de club au-dessus des 8e ou au-dessus des quarts pour Lyon. Donc il y a un moment, il faut aussi se regarder en face. Je dis pas que le championnat de France est mauvais. Je dis juste qu'il n'est pas dans les leaders du championnat, des meilleurs champions d'Europe.
Européen.
Après, ça, c'est une réalité. C'est comme ça, mais on sait pourquoi. Et c'est pas lié à l'économie. C'est lié en partie à l'économie. C'est surtout lié à un manque de supporters en France et de culture foot. Mais ça, il faudrait plus de temps pour le développer. Ce que je dis juste, c'est que Seferin a raison dans son constat que le championnat de France n'est pas dans les 4 meilleurs d'Europe. Mais ça, c'est une évidence. Les résultats de Coupe d'Europe parlent pour lui. Après, le lien qu'il fait n'est pas pertinent.
Allez, on a Sophie et Nathan qui sont tout à fait d'accord avec toi, Abdel, concernant la question du jour et aussi voilà la réaction du président de l'UEFA, Alexander Seferin. Et on a Mourad, qui est tout à fait d'accord avec toi. Il nous rappelle, justement, Mourad, que le troisième Hollandais a battu le deuxième de la Ligue 1 Uber Eats. Voilà.
Oui, non, mais en même temps, si tu t'amusais à faire un match aller-retour entre le PSG et l'Ajax, je suis pas sûr que le PSG
du
gagne.
Du côté de l'Orange Vélodrome, Marseille-Feyenoord, cette demi-finale de cette Coupe C4. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On parlera justement de la Canebière, de l'Olympique de Marseille, de Georges Sampaoli et aussi de NBA. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 39 minutes en live jusqu'à 21h avec Abdel et Louis-Marie. Rien de plus simple, vous nous contactez, on va aborder le cas de l'Olympique de Marseille au 01 53 48 3000. C'est parti.
Time Sport. Le duel.
Mais oui, ça fait hurler Jorge Sampaoli, l'Argentin, qui justement s'agite contre l'arbitrage après cette défaite contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Et oui, on n'en termine pas. L'OM s'est incliné tout de même 3-0 face à l'Olympique Lyonnais dans le cadre de cette dernier match de la 35e journée du championnat Ligue 1 Uber Eats. Les championnats, eh ben eux, encore en lice sur une coupe européenne, toute nouvelle coupe. Ouais, le mari. Alors,
non, mais je trouve que Sampaoli est gonflé.
Sampaoli, pourquoi?
Non, mais il y a un moment donné.
Ouais. Encore favoriser une fois, les Lyonnais. On apercevait ça sur.
Non, mais il y a un moment quand tu prends 3-0.
Ouais.
Je veux bien que, et je suis d'accord que le premier, qu'il y a peut-être penalty sur la main de Dembélé. Et encore une fois, on parle des mains toutes les semaines parce que tant que cette règle, elle sera pas claire, on aura des débats. Pareil sur le premier but lyonnais qui est peut-être entaché d'une faute, mais c'est pas encore une fois. C'est pas des choses évidentes et scandaleuses, mais s'ils avaient perdu 1-0 avec un fait de jeu comme ça à la 85e, je veux bien entendre son discours. Là, il prend 3-0, il n'est pas capable de mettre un but, c'est pas là-dessus que c'est joué le match. Et moi, je pense que Sampaoli, il devrait arrêter de partir en croisade là-dessus, ouais. Et aussi se dire, bah, on est passé à côté de notre match, parce qu'on était entre deux gros rendez-vous de Coupe d'Europe, et c'est tout à fait excusable, plutôt que de continuer à parler d'arbitrage semaine après semaine. Moi, j'en ai marre de parler de l'arbitrage.
Ouais.
Parlons de football. Sur ce match,
l'arbitrage fait rage, Louis-Marie, oui, dans ce championnat. Mais c'est pas non, moi, hein, ça fait hurler.
Oui, mais quand tu prends 3-0, de quoi tu me parles d'arbitrage? Moi, je veux bien. Quand tu prends 2-1, 1-0, pourquoi pas? Mais tu prends 3-0, on parle plus d'arbitrage, là.
Ouais. Là, c'est la catastrophe, Abdel.
Ouais, Louis-Marie, il est d'accord avec pas les sujets ce soir.
Ah, mais ça ne va rien. Ça ne va rien. Tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord avec lui, c'est comme ça.
Non, en réalité, c'est vrai qu'il y a des. On peut en parler. Parce que la physionomie du match aurait peut-être été différente. Après, comme on sait, un penalty c'est jamais marqué parce que c'est sifflé et autres et tout. Mais après, voilà, c'est vrai que l'OM a quand même pas mal vendangé. Mais on a le droit de s'interroger sur tout ce qui se fait. La VAR, pourtant il a bien été consulté. On lui a dit que non. Donc ok, une personne qui se trompe, ok, mais trois autres ou quatre. Et ben après c'est un autre débat qui est toujours au cœur, mais je pense que
c'est un débat qu'on fait semaine après semaine, mais on est tous d'accord là-dessus, ouais, que la VAR elle est mal gérée.
Et après ça fait 5 ans qu'elle est en place. Je suis pas sûr qu'elle ait amené autant de positifs qu'on le pensait à son arrivée. Après maintenant oui, il y a des choses qui ont été un peu limite, on va dire. On le sait dans ce choc, souvent en plus quand ça se joue au stade Vélodrome, il y a toujours des choses un peu indécises, on n'est pas trop sûr. Bon, les supporters pourront pas dire que c'est Olas vu qu'il est un peu hors course cette saison, mais voilà, c'est toujours quand ça va pas dans ton sens que tu te plains, sinon tu fermes les yeux. Mais après voilà, qu'il en parle, c'est comme c'est comme tout, hein, tu vas pas faire semblant de pas avoir vu ou de pas être avec ton équipe.
Non, je demande pas de faire semblant.
Non, mais
je
dis que dans tous les sens, c'est la communication qui est faite.
Non, mais est-ce que t'as vu sa conférence de presse? Il n'a parlé que de ça. C'est la première chose dont il parle. Il explique la défaite de son équipe par l'arbitrage. C'est ça qui me gêne, moi. Qu'il dise, si on lui pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes d'arbitrage, qu'il dise, oui, moi j'aurais fait ça à la place. Ok, peut-être.
Ouais.
Mais qu'il y a un moment, quand tu prends 3-0, tu peux pas dire que c'est à cause de l'arbitrage, sauf si vraiment l'arbitrage a été honteux, scandaleux, que t'as pris un rouge inexistant à la 3-0.
Le 3-0 fait beaucoup, mais l'effet de match arrive à des moments qui peuvent changer. Mais
ils sont dominés quand même
J'ai trouvé quand même que Marseille avait.
Alors, en première mi-temps, ils sont pas trop mal. En deuxième mi-temps, ils existent.
Plutôt pas mal de choses, surtout qu'après, ils ont pris un but rapidement qui a changé la donne, mais
je cite.
Voilà.
Nos résultats, justement, est totalement influencé par l'arbitre. Ouais. Il y a un penalty pour nous en première mi-temps qui n'est pas sifflé, lui, Marie. On a été meilleur. C'est un classique dont, donc, l'arbitre doit.
Tu peux pas me dire que t'es meilleur quand tu prends 3-0
et que t'es pas. On n'a pas subi le match.
Ils ont trois occasions dans le match.
On l'a même contrôlé. Ça se joue sur des erreurs d'arbitrage, explique mais... justement Jorge Sampaoli. Le 0-1, c'est contre 43 000. On a un auditeur. On a Farid qui nous appelle. On va écouter Farid. Bonsoir, Farid.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
On revient, Farid, justement sur l'Olympique de Marseille avec ce match, il y a l'Olympico avec l'Olympique Lyonnais, 3-0. Lui, Marine nous disait, il n'y a pas à revenir sur l'arbitrage à 3-0. Êtes-vous d'accord, justement, avec cette victoire écrasante
Moi, bien que je sois Lyonnais, pour être objectif,
ouais.
Effectivement, il aurait peut-être pu siffler un pénalty sur le bras de Dembélé, mais des fois ça se siffle, des fois ça ne siffle pas. Donc c'est pas clair, il faut que vraiment qu'on travaille là-dessus au niveau de l'arbitrage. Bon, sur le choc avec le gardien où Dembélé marche sur le bras de Paul Lopez, je pense que le gardien se relève juste après. À la limite, il serait resté allongé en train de se plier en deux de douleur. Je pense qu'il y aurait peut-être eu une intervention de la VAR. Mais cela dit, moi je suis très surpris par cette défaite. Parce que j'ai l'impression que Marseille, depuis quelques années, fait un complexe face aux Lyonnais. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais.
J'ai l'impression que souvent, ils sont tétanisés comme ça, ils n'arrivent pas à se lâcher.
Franchement,
Marseille a développé un super jeu, un gros mental.
Ouais.
Et là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment, ils se sont loupés, plus ou moins.
Paris est loin.
C'est plutôt le club à rattraper, les Lyonnais. Est-ce qu'ils avaient la tête à Feyenoord, je ne sais pas.
Ouais. On verra bien.
Est-ce que c'est la fatigue aussi, parce qu'ils ont joué jeudi?
Oui, c'est ça.
Mais 3-0, ça sonne bizarre quand même.
C'est fort.
On voit bien que c'est un accident.
Farid, on a la réaction avec Abdel.
Comme Farid parlait. Bonsoir Farid déjà, pardon.
Oui, bonsoir.
Quand il parle de aussi la faute de Dembélé potentiellement sur Paul Lopez, après ça c'est aussi autre chose. Comment on vérifie c'est Paul Lopez, il va pas remonter sa manche, montrer qu'il a une marque. Donc c'est encore un autre débat. Donc c'est aussi très compliqué. C'est vrai que ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le penalty. Après, sur ce que tu dis, c'est vrai que depuis quelques années Lyon performe souvent au Vélodrome et souvent dans des situations où ils sont dos au mur et où ils ont besoin de gagner justement au Vélodrome pour accrocher ne serait-ce que une Coupe d'Europe ou rester en lice. Donc voilà, après Marseille était bien, heureusement qu'ils ont grillé un seul joker, mais voilà, c'est vrai qu'à Lyon en ce moment il y a toujours ce supplément d'âme parce que on va dire que le nouveau choc depuis quelques années, l'Olympico, est quand même très très agréable à suivre. Ouais. Et voilà, je pense que t'as assez bien résumé la chose à travers ton intervention.
Alors,
c'est clair.
Moi je suis d'accord avec Farid quand il parle d'accident. Moi je vois aussi un accident du côté de l'OM. C'est un match qui leur a pas souri sur plein d'aspects. Effectivement, peut-être des décisions d'arbitrage, un manque de réussite aussi. Après,
et des choix aussi de
Sampaoli qui a fait tourner quelques joueurs parce que la priorité c'est malgré tout la Coupe d'Europe et il a raison. Après, moi je critiquerai pas l'OM sur ce match. La seule chose que je critique, ça arrive et elle est liée entre deux matchs, deux demi-finales de Coupe d'Europe, elle est parfaitement légitime cette erreur. S'ils se qualifient jeudi, tout le monde aura oublié ce match-là. Moi, ce que je critique juste, c'est de se cacher derrière l'arbitrage sur un match pareil. Je trouve que c'est pas au niveau de Sampaoli, qui est un entraîneur que je respecte. Là, franchement, c'est un peu petit de se cacher derrière.
Notre auditeur, le 0153483000, vous faites comme lui. Farid, on va vous faire emporter, justement, le dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain. Peut-être vous l'offrirez à la famille, aux amis. Un magnifique bouquin. Non, vraiment, vraiment, aux éditions Solar. Vous restez en ligne. Yanis va prendre votre adresse et on va vous l'envoyer rapidement pour
ça. Merci beaucoup.
Mais merci à vous, Farid, pour
merci
le coup de fil.
Bonne soirée.
Merci à vous, les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. On va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, Joel Embiid, justement, superstar de la NBA. Eh oui, ça fait effet. Quoi, ça, vraiment, on en parle beaucoup et qui se rapproche peut-être de cette fameuse équipe de France de basket. Tu es tout souriant. C'est vrai que on se doit de l'être.
Mais je crois que les.
Non, ça, c'est incroyable.
Pour rappeler aux auditeurs qui est Joel Embiid.
Allez, vas-y.
C'est le meilleur scoreur de la NBA cette année.
C'est ça.
C'est l'un des 3, 4, 5 peut-être meilleurs joueurs du monde. Il est encore jeune. Il a 28 ans.
Et selon Vivien Yanis aussi.
Ultra dominant. C'est un pivot extrêmement technique. Mmh. Donc parfaitement complémentaire de notre Rudy Gobert qui est plus défensif.
Ouais.
Bref, si ça devait se faire, ça serait une nouvelle extraordinaire pour le basket français. Et on n'a pas le droit de faire la fine bouche parce que ces histoires de comment ça s'appelle quand on donne la nationalité, de nationalisation de joueurs, ça se fait beaucoup dans le basket. Et le basket en plus est très très rigoureux là-dessus parce qu'on a le droit d'avoir qu'un seul joueur naturalisé dans une effectif et qu'il faut qu'il ait la nationalité, ce qui n'est pas le cas dans le foot ou le rugby où c'est beaucoup plus ouvert. Donc moi j'aurais aucun scrupule à avoir Joel Embiid en équipe de France. Ça serait une chance incroyable de composer le meilleur secteur intérieur de l'histoire du basket à peu de choses près.
Il a enclenché les démarches administratives pour obtenir cette fameuse nationalité française et pouvoir jouer avec cette équipe de France, Abdel.
Comme l'a dit Louis-Marie, c'est un des éléments phares de la NBA. En plus de ça, bon, ce qui est surprenant, c'est juste que c'est pas quelque chose qui arrive notamment en équipe de France. On a toujours vécu avec des générations plus ou moins qui changeaient très peu sur les années ou les compétitions. Là, tu peux pas te passer d'un joueur comme ça qui souhaiterait rejoindre ta sélection. En plus de ça, c'est une réelle plus-value. Tu peux pas croire que c'est un joueur moyen. Après, je pense que c'est quelque chose qui est travaillé peut-être depuis un moment.
L'éventualité avait déjà été évoquée en 2018.
Voilà, donc ça fait un moment qu'elle
a fait des bosses dessus.
Et après voilà, il va avoir aussi des compétitions qui vont arriver prochainement, sans parler de la compétition numéro 1
qu'il sera éligible que pour le Mondial 2023.
Dans ce sens-là, tu vois, il y a les JO qui vont arriver en...
Mais c'est pour ça qu'il veut. Hein.
Oui, qui vont arriver en France. Donc le fait de pouvoir se mettre avec ce groupe-là pour le Mondial, déjà créer des automatismes et après avoir une place qui lui est certaine s'il vient en équipe de France pour les JO. Voilà, c'est un titre qui pourrait accrocher à son palmarès. Donc c'est une réelle plus-value. Moi je fais pas la fine bouche, je suis pas le plus grand connaisseur, mais des retours qu'on a et de ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui normal rentre dans le 5 majeur de l'équipe.
Après ce qu'il faut se dire, parce
avant le pronostic
pour répondre à
cette Ligue des Champions deuxième première demi-finale retour,
ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que la France l'a jamais fait que c'est très classique dans le basket. Toutes les équipes, l'Espagne l'a fait régulièrement, la Russie l'a fait, et nous on peut dire que Embiid n'est pas français peut-être, mais c'est quelqu'un qui parle français, qui a de la famille en France, il a quand même des attaches. Quand l'Espagne fait signer Mirotić ou quand la Russie joue avec Shved, qui est un Américain, bon, on sait très bien ce qui se passe, c'est que des mecs qui sont pas du tout liés au pays. Donc il y a un moment, faut quand même se dire que faut pas faire la fine bouche, faut pas se battre la coupe et se dire ah on n'est pas bien, on fait signer des mercenaires. Il a envie de jouer pour l'équipe de France, il est extraordinaire. Mais c'est une nouvelle phénoménale parce qu'en plus, pour parler technique une seconde,
et on est heureux.
Le secteur intérieur, ça deviendrait une force énorme en France et ça tombe très bien parce que le secteur faible des États-Unis, qui serait notre grand rival pour la médaille d'or, secteur intérieur. N'oublions pas qu'il n'y a pas un pivot dans les équipes une NBA américaine depuis quelques années.
Et tu fais bien d'en parler. Allez, merci Louis-Marie et aussi Abdel. Allez, avant de quitter les auditrices et les auditeurs de Beurre FM et se retrouver dès demain, on va parler de cette première demi-finale retour, le 11 de départ justement de Villarreal, les Espagnols qui accueillent les Reds de Liverpool, les Britanniques. Allez, peut-être la composition avec toi Abdel.
Oui, celle de Villarreal, Rulli dans les buts, Foyce, Albiol, Torres et Stupinan. Lo Celso, Parejo, Capu, Coquelin, Moreno, et Boulaïdia. Juste un petit mot. On le disait la semaine dernière, c'est Unai Emery, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui essaye d'optimiser son équipe quand il a rencontré des difficultés. Il avait pas du tout ce système de jeu à l'aller. Là, il va mettre beaucoup plus de vitesse et de tenue avec des joueurs de ballon au milieu. Donc, je pense que Villarreal, ça va être dur, mais ça va être une opposition beaucoup plus équilibrée que la semaine dernière.
Le Marais. Pour le 11 de justement Liverpool. On a ce 11-là. Si tu l'as, vas-y.
C'est très classique.
Avec Alisson.
Alisson, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk et Robertson. Donc la défense classique. Keita, Fabinho, Thiago au milieu, c'est encore une fois du très très costaud. Et devant, Sané, Mana, Rota, on a l'habitué.
Salamané.
À chaque fois, je l'appelle.
Tu fais des crosses.
C'est des crosses, exactement. C'est Sangoku, quoi. Il y a Vegeta qui fusionne. Mais bref, ces deux-là sont quand même très en forme en ce moment. Après, moi, je rejoins assez Abdel, je pense, en termes de pronostic. Ça va être un match ouvert parce que Liverpool joue et on va voir des buts. Je verrai bien un petit 2-2.
On espère.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Alors on espère justement. On en a vu un beau de match à l'aller entre ce Real Madrid aussi. Eh oui, hein, Manchester City, Real
demain,
Madrid.
Demain ça va être chaud.
Et demain ça va être très 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 chaud. C'est la demi-finale. Ça fera plaisir, pourquoi pas. Pas mal de buts. Allez, les pronostics avant de vous quitter, cher auditeur de Boréfa.
Moi j'ai dit 2-2.
2-2 pour le mari.
Je rejoins le mari, moi.
Ah oui, 2-2. Ouais. Allez, pour
Abdel, ouvert.
2-2. Ça restera assez ouvert. Il est d'accord aussi, le réalisateur. Yanis, un grand merci aussi à toi, Yanis, sans oublier Nathan et aussi Farid, Abdel et Merwan. Et sans plus tarder, toute l'équipe, la rédaction de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. À 22h, vous aurez Vanessa et son réalisateur Giovanni. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.